Vous écoutez un podcast RTL Originals.
Ils sont avocats, enquêteurs, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Nous sommes Nathalie Renoux, Amandine Bégaud, Jacques Pradel et Jean-Alphonse Richard. Et dans chaque épisode, nous recueillerons la parole d'un témoin clé qui racontera une affaire de son point de vue. Bonjour et bienvenue dans Les Voies du Crime. Je suis Nathalie Renoux, journaliste à M6 et W9. En 2010, aux Assises de Saint-Omer, j'ai assisté au procès de Béatrice Matisse. Cette femme est accusée d'avoir sauvagement tué Monique Lejeune de 58 coups de couteau à Coulogne, dans le Pas-de-Calais, en 2003. Les deux femmes se connaissent bien. Béatrice Matisse est la première épouse de Claude Lejeune. Elle en est séparée depuis des années. Et la nouvelle femme de Claude, c'est Monique Lejeune. A priori, toutes deux entretiennent des relations cordiales. Et pourtant, Béatrice Matisse reconnaît qu'elle a rendu visite à Monique Lejeune le soir des faits. Sous les ongles de la victime, c'est son ADN qui est retrouvé. Elle a même avoué le meurtre à des policiers, des aveux qu'elle a ensuite rapidement démentis. Autant d'indices qui l'ont conduite aux assises. Lors de la première audience, tous ces éléments qui l'accusent sont balayés un à un par son avocat, le ténor du barreau, maître Éric Dupont-Moretti. Non seulement il instaure le doute sur sa culpabilité, mais il reporte même les soupçons vers une autre personne, un des fils de la victime, Jean-Luc Flamand. Verdict de ce premier procès, Béatrice Matisse est acquittée. Mais le parquet fait appel. En janvier 2012, un nouveau procès se tient aux assises de Douai. Et cette fois, il ne se déroule pas du tout comme le premier. L'avocat général, qui représente la société, ne croit pas en l'innocence de Béatrice Matisse. Cet homme, c'est Luc Frémiot. Il est la voix du crime de cet épisode et il raconte comment il va faire basculer l'affaire. Luc Frémiot, comment est-ce que vous arrivez sur l'affaire Béatrice Matisse ?
C'est tout simple. Au mois de décembre 2011, je reçois un coup de téléphone d'un de mes collègues qui me parle de cette affaire qui avait fait l'objet d'un acquittement à Saint-Omer. Et le verdict ne lui convenait pas, il m'explique que c'est une affaire complexe, qui a été très très mal déroulée au départ. Ils ont été embarqués dans toute une série de difficultés, au niveau de la défense notamment, il me demande si je veux bien prendre cette affaire. Donc j'accepte, et je me fais donc remettre ce dossier que je découvre donc un petit mois avant l'audience qui se déroule à la cour d'assises de Douai.
Au premier procès d'assises, Béatrice Matisse, qui est donc accusée du meurtre de Monique Lejeune, est acquittée. Et son avocat, c'est Éric Dupont-Moretti, qui choisit une ligne de défense un peu particulière.
Éric Dupont-Moretti a choisi une ligne de défense qui s'est avérée extrêmement efficace, mais qui m'a profondément ulcéré, puisqu'il s'est agi en fait de faire porter la responsabilité, la culpabilité du meurtre de cette femme par son propre fils, qui s'appelle Jean-Luc, et qui est un garçon fragile sur le plan psychologique et qui n'avait certainement pas les moyens de se défendre face à un avocat qui lui pose des questions devant une cour d'assises avec du monde, avec de la presse, avec le décorum. Et j'ai détesté cette façon de se comporter. Et j'ai aussitôt remis les choses à l'heure lorsque nous sommes arrivés effectivement devant la cour d'assises de Douai et lorsque j'ai senti qu'on allait déraper de nouveau vers le même sujet. Je me souviens de lui avoir dit qu'il avait déféré devant le tribunal de l'opinion publique un jeune homme fragile qui ne savait même pas où il habitait et qui était incapable de donner l'étage où il était. Je trouve que c'est un peu facile, effectivement.
Pourquoi avait-il visé Jean-Luc ?
D'abord, Jean-Luc, c'était un des derniers à l'avoir vu, sa mère, puisqu'il se rendait chez elle régulièrement tous les soirs. Et on sait que ce soir-là, le soir donc du 7 février, il a quitté le domicile de sa mère à 19h, 19h05, étant arrivé vers 18h35 à la sortie de son travail. Et puis il y avait d'autres petites difficultés, parce que lorsqu'il est interrogé par les enquêteurs, Jean-Luc, il ne sait pas s'exprimer. Il a du mal, il bafouille, on lui demande des horaires, alors il mélange un peu dans les horaires. Et puis on va faire une perquisition chez lui, on va regarder son vélo, et on voit des taches qui s'apparente à du sang. Visuellement, on a l'impression qu'il y a des taches de sang sur le cadre de son vélo. Et quand on arrive chez lui également, il y a une porte qui est une porte d'ailleurs qui dessert des parties communes de l'immeuble, où il y a également des traces comme ça qui semblent être du sang. Donc on l'interroge là-dessus. Et puis lui, il ne sait pas tellement quoi dire. Il dit, je me suis coupé. J'ai une histoire comme ça. Et en fait, on se rendra compte, quand les analyses seront faites, que c'était du sang animal. Donc il n'y avait rien. Mais voyez-vous, il n'était pas capable de s'en sortir. Et puis il y avait un autre facteur aussi, moi, qui m'a absolument sidéré, et qui s'est d'ailleurs répété lors de l'affaire à Douai, c'est que l'avocat de la partie civile, c'est-à-dire l'avocat de Jean-Luc, le laisse tomber à l'audience. C'est-à-dire que elle plaide dans un contexte extrêmement étonnant, en disant qu'elle a un doute, et que dans ces conditions-là, elle ne voit pas très bien ce qu'elle doit faire, elle invoque sa clause de conscience, etc. Donc Jean-Luc se retrouve encore plus fragilisé par cette prise de position d'un avocat de la partie civile, qui est quand même là pour soutenir. Ou alors, il se démet, il s'en va. Non, là, elle choisit de rester et de faire part de ses troubles.
Alors que, rappelons-le, Jean-Luc n'est pas du tout dans le box des accusés. Il est partie civile parce que sa mère a été tuée. Quand vous avez eu le dossier en main, qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui vous a marqué?
Ce qui m'a marqué, il y avait quelque chose qui est pour moi sauté aux yeux. C'était la divergence qu'il y avait entre les dépositions de Béatrice Mathis, qui a entendu une première fois le 17 mars par les services de police judiciaire, et qui explique qu'elle n'a pas vu Monique Lejeune, que la dernière fois qu'elle a vu, c'était il y a 2 mois. Et 10 jours plus tard, le 27 mars, on a Béatrice Mathis qui, spontanément, va se présenter devant la police judiciaire, en disant, écoutez, je suis très embêté, je ne dors plus, parce que je vous ai menti. Voilà. La vérité, c'est que j'ai bien vu Monique Lejeune, le soir des faits. Je suis arrivé, il était environ 19h05 ou 19h35, je me souviens plus précisément. Et je ne l'ai pas dit parce que j'avais peur. J'avais peur que d'être suspecté. J'avais peur qu'on se pose des questions sur ma présence. On m'aurait dit que j'étais la dernière à l'avoir vue, donc j'ai préféré me taire. Alors la police me dit, mais pourquoi vous y êtes allé? Vous nous dites que vous y rendez jamais. Eh bien, c'était particulier parce que je voulais faire une surprise. Je voulais en fait organiser une espèce de réunion de famille, à la fois avec mes filles. Elle a 5 filles, qu'elle a eues d'ailleurs avec le nouveau mari de Monique Lejeune, qui s'appelle Claude Lejeune. Monique Lejeune, elle a 3 fils. Elle
voulait organiser d'un précédent mariage.
D'un précédent mariage, effectivement. Et donc, elle voulait organiser une espèce de fête de famille. Enfin, on comprend pas très bien pourquoi. Et puis surtout, ce qui est très gênant, voyez-vous, c'est qu'elle choisit juste le jour, le soir plutôt, pour aller parler de cela à Monique Lejeune, le soir où elle est toute seule, Monique. Alors qu'elle n'est jamais seule. Elle vit avec son mari. Béatrice Mathis sait, par ses filles, que son mari n'est pas là ce soir-là. Puis elle dit, mais de toute façon, ce soir-là, je l'ai trouvé très bizarre. Elle était nerveuse, elle avait l'air agacée, on avait l'impression qu'elle attendait quelqu'un. Et elle m'a reçu sur le seuil de la petite maison. C'est une petite maison modeste avec un petit jardin et puis un petit portail qui donne sur une petite grille qui donne sur la rue. Elle m'a pas laissé rentrer. Et à un moment donné, d'ailleurs je dois vous dire, il y a eu un petit incident, elle a vacillé, elle a trébuché sur une marche, elle s'est raccrochée à moi. Et elle m'a d'ailleurs griffé l'avant-bras, et puis à ce moment-là, Béatrice Mathis remonte sa manche. Et on voit effectivement une trace ancienne de griffure. Voilà. Il y a déjà un doute qui s'instille, bien évidemment, parce que, comme je le dis, elle vient comme par hasard, jour où il n'y a personne. Elle raconte une histoire pour légitimer sa venue qui tient pas vraiment la route, parce que d'ailleurs, on changera de version. On se demande brusquement pourquoi cette femme se serait raccrochée à elle de cette façon, et puis l'aurait griffée aussi profondément, parce que on verra d'ailleurs, le médecin légiste retrouvera la trace de cette griffure 47 jours après. La cicatrice est encore visible 47 jours après. Ce qui démontre, pas une petite griffure qu'on peut faire en se raccrochant quelqu'un lorsqu'on perd l'équilibre, mais vraiment à une profonde griffure. Et lorsqu'on constatera par la suite que sous les ongles de Monique Lejeune, il y a la peau, et que l'ADN correspond à Béatrice Mathis, je sens mes doutes qui petit à petit s'évanouissent, au fur et à mesure de ce dossier.
Donc là, vous avez de plus en plus la conviction que Béatrice Mathis n'est pas pour rien dans la mort de Monique Lejeune.
Tout à fait. À partir de ce moment-là, je suis quand même absolument sur cette thèse-là. Je me dis que c'est pas possible. Il y a trop de choses.
Est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent renforcer cette conviction?
Alors, il y a d'autres choses, bien évidemment, qui sont d'ailleurs des faits extrêmement importants. Lorsque Béatrice Matisse va être déférée devant le juge d'instruction, parce que le parquet, le procureur, va considérer qu'il y a suffisamment d'éléments, ceux que j'ai rappelés, et puis il y aura encore d'autres éléments dont on parlera, elle est mise en examen et placée en détention. Et là, elle a un avocat calédésien, qui est présent et qui ne dit rien. Elle est extrêmement affectée par ce comportement. Elle est sous le choc de la mise en détention. Et lorsque les services de police judiciaire la ramènent, donc enfin la conduisent plutôt à la maison d'arrêt, elle va se confier à eux. Elle leur dit, écoutez, mais c'est extraordinaire. Vous savez, cet avocat, il a rien fait pour me défendre. Moi, je comprends pas. Mais qu'est-ce que je dois faire? C'est pas possible. Je vais en prison. Mais qu'est-ce que je dois faire? Mais conseillez-moi, etc. Ah, les fonctionnaires de police ils sont très embêtés parce que. Elle a été mise en examen, normalement, on peut pas l'interroger. Donc, il l'interroge pas. Il lui dit, madame, on a rien à vous dire. Dites la vérité, c'est tout ce qu'on peut vous conseiller. Et là, un moment se passe, on est en voiture, et brusquement, il y a des aveux. Alors, des aveux qui vraiment sont spontanés. Et elle explique, bah, écoutez, voilà ce qui s'est passé. Ce soir, j'y suis allé, effectivement. Je voulais mettre sur pied une fête de famille. Mais Monique m'a reçu de manière très désagréable sur le pas de la porte. Mais je suis persuadé qu'elle attendait quelqu'un. D'ailleurs, je pense qu'elle a un amant. C'est une femme qui est étonnante, qui est bizarre. Elle est désagréable. Et ce soir-là, ça s'est très mal passé. Elle s'est mise à insulter mes filles. On s'est disputé très violemment. Elle m'a chassé de chez elle. Alors j'étais même pas rentré. J'étais sur le pas de la porte. Et je me suis retrouvé là comme une malpropre. Je suis parti vers ma voiture. Et là, j'ai pris un coup de colère terrible. Je suis rentré dans la voiture et j'ai pris un couteau que j'ai toujours là parce que je fais beaucoup de voyages, je travaille en Angleterre, je dors parfois dans ma voiture et pour me défendre, j'ai un couteau. Et je suis revenu là et effectivement, bon, il y a eu une empoignade, on s'est agrippé et puis je l'ai frappé, voilà. Et je l'ai laissé, elle est tombée sur le seuil de sa maison, le corps dans le jardin. Et moi, je suis parti, affolé par ce qui s'était passé. Et j'ai jeté le couteau un peu plus loin, dans le bac à ordures d'un magasin, un magasin Continent, je crois, qui était un peu plus loin. Voilà ce qu'elle dit à ses fonctionnaires de police. Alors, ils sont atterrés parce que ils peuvent pas, comment dire, consigner ce qu'ils viennent d'apprendre. Ça serait une nullité du dossier. Donc, ils sont très embêtés, ils savent pas quoi faire. Alors, ils téléphonent au juge d'instruction. Qui a le bon réflexe, qui dit, bah, écoutez, surtout, ne prenez rien, ne faites pas de procès-verbal, ne prenez rien du tout. Vous dites à Madame Matisse, eh bien, une fois à la maison d'arrêt, eh bien, de m'écrire en demandant une audition rapide. C'est ce qu'ils font. Et là, Béatrice Matisse va donc être devant sa feuille de papier, on lui donne un stylo. Et elle écrit qu'elle veut rencontrer très rapidement la juge d'instruction pour faire une nouvelle déposition et qu'elle souhaite être accompagnée des mêmes fonctionnaires de police qui l'ont accompagnée lors de son transfèrement devant lesquels elle s'est confiée. Ce qui prouve qu'on n'est pas du tout dans un état qui sera d'ailleurs plaidé par la suite, un lavage de cerveau, une dépression, toute une série d'éléments pour la fragiliser en lui disant qu'elle va en prendre pour 20 ans, etc. Et alors là, elle arrive devant effectivement le juge d'instruction. Et puis, donc tout le monde s'attend à ce qu'elle fasse des aveux. Pas du tout. Elle ne fait aucun aveu. Elle conforte ce qu'elle a dit au début en disant qu'elle n'y est pour rien. Et à partir de ce moment-là, elle va se mettre de manière mais systématique à charger Monique, le jeune, en l'attaquant sur tous les fronts. Alors, elle avait déjà évoqué un amant. Après ça, elle dit qu'elle passe sa vie sur la Sibie, à faire des messages avec des routiers. On ne sait pas exactement ce qu'elle dit. Qu'elle a des dettes. Qu'elle est désagréable. Que c'est une femme renfermée. Enfin, tout ce qu'il faut, si vous voulez, pour dresser le portrait d'une femme acariâtre, désagréable, qui a une vie secrète et cachée. Et si elle a une vie cachée, bien évidemment, eh bien, ça peut être, je sais pas moi, un amant éconduit, quelqu'un qui fait venir chez elle, voilà. Et elle va effectivement s'employer à ce genre de choses. Le juge va donc être extrêmement étonné, et puis va décider d'entendre comme témoin les trois fonctionnaires de police. Et les trois fonctionnaires de police, qui vont être entendus séparément, vont donner effectivement une relation des faits qui correspondra à ce que l'on saura par la suite. Et c'est ça qui est intéressant. Ça, on ne le saura que par la suite, lorsqu'il y aura la reconstitution et qu'on aura les expertises des légistes. Et tout ce que vont dire les fonctionnaires de police qui correspond à ce que leur a livré Béatrice Mathis, elle donne des éléments matériels, des circonstances de fait, la manière dont les choses se passent. Et tout ça va en fait être corroboré par la reconstitution et les expertises. Elle explique qu'elle est face à Monique, le jeune, lorsqu'elle va la frapper à coups de couteau. Et effectivement, la majorité des coups de couteau sont 58 plaies, toutes vitales, c'est-à-dire qu'elles ont toutes été commises pendant qu'elle était vivante. Vous imaginez l'atroce supplice que cette femme a subi, avec des lésions de défense, les mains coupées parce qu'elle a essayé de s'emparer du couteau. Il y a eu tout cela qui a joué un rôle important. Ben, elle le dit. Et ça correspond aux constatations que vont faire les légistes, qui voient effectivement les lésions de défense, qui voient l'endroit où les coups ont été donnés. Elle dit qu'elle a frappé au thorax. Effectivement, la majorité des coups sont au thorax. Il y a quelques coups dans le dos, au niveau du cou. Et comme par hasard, elle en parle, Béatrice Mathis. Et lorsqu'on va être sur les lieux, lorsque la police scientifique va venir, et on se rend compte qu'à un moment donné, eh bien, Monique Lejeune a essayé de s'enfuir en montant à l'étage. Et ce qui est intéressant, pourquoi a-t-elle monté l'étage? Pourquoi a-t-elle essayé ça? Parce qu'il y avait ses chiens qui étaient là-haut. Ces chiens qu'elle avait enfermés. Et quand on sait, par les proches, eh bien que Monique, lorsqu'elle ne sait pas qui est-ce qui sonne à la porte, est très méfiante, et se fait toujours accompagner de ses chiens, là, le fait qu'elle les enfermait au préalable, c'est qu'elle savait que c'était un proche, enfin quelqu'un qu'elle connaissait. Donc, Béatrice Mathis, ça colle encore une fois, voyez-vous. Elle explique, par exemple, comment elle a laissé le cadavre. Et nous, on a un voisin, celui qui découvre les faits, parce qu'il y a un voisin qui habite à côté. Toute la nuit, il a entendu les chiens aboyer. Il se demande pourquoi, les chiens, ils hurlaient à la mort. Et un matin, il regarde par la fenêtre, il voit un truc bizarre dans le jardin. Et là, comment dire, il va y aller avec un autre voisin. Qu'est-ce qu'il découvre? Bah, le corps de Monique Lejeune, couché, effectivement. C'était sur le ventre, si je me souviens bien. Et c'est ce qu'avait dit Béatrice Mathis. Alors vous voyez, là, on est tout au début. Et que ce soit les éléments qu'on a au départ, les éléments qu'on va ensuite recueillir au moment de la reconstitution et des expertises, eh bien, tout correspond. Et l'ADN en plus, qui est quand même extrêmement important.
Béatrice Mathis, c'est quel type de femme? Qui est-elle au moment des faits?
Qui est Béatrice Mathis? C'est vraiment, comment dire, une question qui reste un petit peu sans réponse. Parce que c'est une femme qui est très mystérieuse, ne se livre pas. Moi, elle m'apparaît déjà, au moment où je la vois, comme quelqu'un de très sombre. Elle parle peu, mais elle est très arrogante. Elle regarde les gens à la cour d'assises, je me souviens, je sais pas comment elle était là en première instance, mais là, une espèce de défi dans les yeux. Et puis, elle répond de façon très laconique. Lorsqu'on l'interroge notamment sur sa personnalité, sur ces éléments-là, elle est peu diserte. On apprend, par exemple, d'après ses proches, que c'est une jeune femme qui est un peu mystérieuse. Alors elle parle d'elle, elle dit qu'elle a eu une bonne enfance, que tout s'est bien passé. Elle a travaillé à partir de l'âge de 14 ans, malgré tout, d'abord dans une usine, ensuite elle était vendeuse. Par la suite, elle a mené une vie sans particularité. Elle a rencontré donc Claude Lejeune, a eu 5 filles avec lui. Elle assure se moquer, mais complètement. Elle dira d'ailleurs cette expression, je me fiche royalement du fait que mon ex-mari Claude se soit remarié avec Monique Lejeune. Intéressant parce que... C'est un mobile qui disparaît, on
oui. pourrait plus dire. La jalousie entre deux femmes aurait pu fonctionner, mais elle l'évacue très vite.
Elle l'évacue très vite. Et puis, après ça, on interroge les proches. Et les proches, ils la décrivent d'une manière assez négative. Alors, on nous dit que c'est une femme d'abord très, très, très légère, qui a passé pas mal de temps à tromper son mari, elle avait des liaisons multiples, qu'elle a des activités qu'on ne connaît pas, parce qu'elle s'en va chaque année plusieurs mois en Angleterre avec sa voiture. Et là, même ses filles ne peuvent pas la joindre. Alors les policiers aussi font une perquisition à son domicile, bien évidemment. Et là, voyez-vous, on va quand même arriver dans une maison mais où il y a mais comment dire, un désordre, mais indescriptible. Depuis le rez-de-chaussée jusqu'aux étages, on a l'impression que c'est une espèce d'immense débarras. Il y a aucune hygiène, il y a de la vaisselle sale qui date de plusieurs jours dans l'évier. On monte à l'étage, la chambre, c'est une espèce de dépotoir avec des paires de bas noirs roulés, en boule, mais il y en a partout. Voilà. Mais c'est des éléments, vous savez, qui frappent, quoi. Alors après, il y a l'expertise psychologique qui va être faite. Et l'expert va dire quelque chose d'intéressant. Il va dire, c'est une femme qui s'adapte à l'évolution de l'entretien. Et moi, je dirais qu'elle s'adapte à l'évolution du dossier. Souvenez-vous, première déclaration 17 mars. J'y suis pas, j'étais pas, je l'ai pas vu depuis 2 mois. Et à partir du moment où il y a le prélèvement salivaire.
Et où donc il peut y avoir les expertises ADN. Oui.
Voilà. Et bien là, elle revient sur sa déposition. Il y a une chose qui est intéressante aussi, que j'ai pas dite. C'est qu'elle va tester cette déposition qu'elle va faire au service de police le 27 mars, avant, auprès de ses proches. C'est-à-dire que elle va les appeler, leur dire, bah, écoutez, ce soir-là, effectivement, bon, j'ai vu Monique pour telle raison, etc. Et il y a ses proches qui sont un peu étonnés de ce coup de fil. Il y a même un cousin, je crois, ou un arrière-cousin qui n'a pas eu de nouvelles d'elle depuis un an ou deux, à qui elle téléphone pour lui faire part de tout ça, dans la volonté, en fait, de tester sa déposition avant de la faire devant les services de police.
En fait, moi, j'ai assisté au procès de première instance. Et effectivement, Éric Dupond-Moretti a jeté un peu le trouble et les soupçons sur Jean-Luc Flamand, vous le disiez. Et puis aussi, tous les éléments à charge contre Béatrice Mathis, il a réussi à les balayer avec sa fougue et je dirais presque son agressivité qu'on lui connaît en salle d'assises. Et personne en face de lui ne l'a jamais contré, ne lui a jamais apporté d'opposition. Comment se déroule le procès aux assises en deuxième instance, en appel donc ?
Alors en deuxième instance, eh bien, ça va se dérouler d'une manière, je pense, très différente de ce qui s'est passé la première fois. J'ai apporté une opposition très, très ferme dès le départ, comme toujours d'ailleurs lorsque je l'ai comme contradicteur, parce que j'essaye de ne pas le laisser faire. Si on le laisse faire, eh bien, c'est lui qui dirige l'audience. Qui reprend tout le monde, qui revient sur les témoignages. Et je vais mettre le holà dès le début, en lui disant que ça va pas se passer comme la première fois, que j'accepterai pas qu'on mette en cause Jean-Luc, que cet homme vit un cauchemar depuis la première affaire, que ses enfants sont désignés dans les cours d'école comme des enfants de l'assassin, etc. Et comme la plupart des affaires que j'ai eues avec lui, c'est sa façon de se comporter à l'audience, que je respecte, mais moi je suis en face. Et je ne laisse rien passer. C'est-à-dire que lorsqu'il interroge un témoin, que le témoin est un peu défaillant parce que sous le feu des questions, le feu roulant des questions, il peut se troubler, et je repasse derrière Maître Dupond-Moretti et je repose mes questions et le témoin revient sur sa déposition. Alors Éric Dupond-Moretti repasse derrière moi et je repasse derrière lui. Et c'est jusqu'au moment où il y en a un qui en a assez. Les jurés sont parfois d'ailleurs complètement sidérés. C'est bon pour personne. C'est pas bon pour le président qui du coup a du mal à tenir son audience. C'est pas bon pour l'image que l'on donne parce que on est obligé de s'affronter de manière directe. C'est presque par moment, ça donne l'impression d'un combat d'ego alors que c'est pas. Je pense pas que c'est le cas. Ça pose des difficultés bien évidemment.
Quand vous dites que le ton monte, ça veut dire que c'est physique, enfin.
Il y a parfois des observations qui vous mettent en cause personnellement sur votre façon de vous comporter, sur ce que vous dites, les services de police. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser dire, par exemple, lorsqu'on met en cause la police d'une manière aussi crue, aussi violente, j'interviens. Lorsque j'ai des enquêteurs, moi, qui viennent déposer à la barre et qu'on est en train de tourner autour. En leur disant que ce sont des gens qui mentent dans leur déposition, qui ont manipulé le témoin, qui ont fait peur à l'accusé, et forcément, j'interviens. Et à partir de ce moment-là, on me reproche d'être l'avocat de la police. Mais je suis pas l'avocat de la police. Je suis d'ailleurs, moi, l'avocat de la société. Je me définis toujours comme ça. Je disais toujours, moi, je suis pas l'avocat de l'accusation, je suis l'avocat de la société. Et vu les éléments que j'ai dans le dossier, les aveux, l'ADN, ses revirements, le comportement à l'audience, les expertises, tout concourt en fait pour démontrer qu'elle est coupable, bien évidemment.
Justement, votre réquisitoire, quel est-il ?
Mon réquisitoire, eh bien, il y a une partie, la première partie, ben, ça a été pour démonter tout ce qui s'était passé en première instance. Parce qu'il y a aussi, vous savez, il y a un rôle pédagogique, et puis la presse est là. Et moi, je suis très attentif à ça, parce que si la presse, la première fois, a relayé cet acquittement, en relayant la plaidoirie de la défense, qui, d'une certaine manière, met en cause très directement Jean-Luc Flamand, ben, moi, je souhaite qu'on reprenne mes arguments dans mon réquisitoire pour l'innocenter. Pour montrer. Vous savez, ce qui me fait de la peine, je vais vous dire, c'est quand je pense à ce garçon, tous les soirs, à 18h35, il sort de l'usine, il prend son petit vélo avec son bleu de travail, et il file chez sa mère. Et ce soir-là, voyez-vous, il va partir à 19h, elle va être tuée vers 19h35 par Béatrice Mathis. Eh bien, vous savez ce qui se passe? Il y va parce qu'elle va lui couper les cheveux. Elle lui coupe les cheveux. Après ça, ben, elle le traite comme un petit garçon. Après ça, ils vont boire un verre de mousseux. Et juste avant qu'il parte, elle lui dit « Attends, attends, Jean-Luc, t'en vas pas, j'ai un truc pour toi. » Elle va dans le congélateur, elle sort une grosse part de gâteau glacé. Il lui dit « Tu mangeras ça avec ta compagne ce soir. » Alors vous imaginez dans un contexte comme ça, et on retrouvera d'ailleurs la part de gâteau glacé dans le congélateur de Jean-Luc Flamand. Vous imaginez dans un contexte comme ça pouvoir croire que c'est lui le tueur, alors que sa mère, il a une dévotion pour elle.
Votre réquisitoire, donc la première partie, c'est pour innocenter Jean-Luc Flamand. Et la deuxième partie, concernant Béatrice Mathis.
Ensuite, évidemment, et ben après ça, je reprends tout. Je vais d'abord parler de quoi? J'ai d'abord parlé de Monique, le jeune. Parce que moi, j'aime bien parler des gens qui sont plus là. Parce que, qu'est-ce qu'on sait d'elle? Eh bien, on sait qu'elle a été touchée de 58 coups. On la voit sur ses photos dénudées, nues, sur une table d'autopsie. On parle de tout ça. Et moi, j'ai envie de parler d'elle quand elle était vivante. J'ai envie de dire qui c'était. J'ai envie d'expliquer que c'était une femme qui était une femme courageuse, une femme qui adorait sa famille, une femme qui avait une petite vie réglée. Elle n'est pas partie à Montmorency, elle fêtait la retraite de sa belle-sœur. C'est parce qu'elle adorait être chez elle. Voilà. Elle était avec ses chiens. À 20h30, elle aime monter dans sa chambre, elle regarde la télévision et elle joue à la PlayStation. Et puis à 22h, elle ressort. Tous les soirs, réglée comme du papier à musique, elle va promener les chiens. Puis après, elle se couche. Puis elle attend son mari. C'est une dame, voilà, tranquille. Voilà, quand ils disent tranquille. Et qui a en plus du caractère. C'est pas quelqu'un de peureux, c'est pas quelqu'un d'agressif, etc. Donc, je parle de tout ça. Je parle de leur vie, de leurs petites habitudes. C'est important de parler des petites habitudes des gens. C'est comme ça qu'on les connaît. Puis après, bien, je dis comment on l'a retrouvée. J'explique un peu ce que ça peut représenter. 58 coups de couteau. Mais il faut imaginer ce que ça peut, en termes de souffrance, de douleur, de peur. Parce que la reconstitution, avec cet expert dont j'ai déjà parlé, qui analyse les trajectoires des gouttes de sang, il expliquera qu'à un moment donné, elle a essayé de s'enfuir dans le jardin. Et effectivement, les traces de sang conduisent à la porte. Il y a une trace de sang d'un pouce qui est sur le chambranle de la porte d'entrée. Elle a ses chaussons au pied. Elle était prête elle cherchait à fuir. Elle est d'ailleurs d'abord partie dans l'escalier. Elle s'est fait rattraper, elle a reçu des coups dans le dos. Et ensuite, eh bien, elle de partir dans le jardin pour appeler les secours. Voilà, je parle de tout ça. Et puis ensuite, bah évidemment, je commence à parler de Béatrice Mathis. J'explique surtout cette capacité qu'elle a à s'adapter à l'affaire. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment... C'est ce que je dis au juré, je dis, mais écoutez, vous savez, moi, les trois quarts du temps, je requiers sans note. Je dis au juré, voilà, le dossier, je le pousse. Les dossiers, c'est quoi? C'est des procès-verbaux, c'est des dépositions, etc. Alors moi, ce que je vous demande, c'est du bon sens. Réfléchissez. Des choses simples. Est-ce que ça vous paraît normal? La première déposition qu'il fait. Et le revirement après le moment où on lui prend sa salive, le prélèvement de salive. Et qu'il vient raconter toute cette histoire qui correspond en rien à la réalité des choses. Elle avait décrit aussi les familles recomposées comme s'entendant bien, on sait que c'est pas vrai, il y a des dissensions, il y en a qui se parlent plus, il y a une vague histoire d'enterrement où l'un ou l'autre ne s'est pas rendu, il y a une suspicion à un moment d'agression sexuelle sur un petit neveu ou un petit enfant qui aurait été commis par un des fils de Monique Lejeune sans qu'on en soit certain. Enfin, il y a tout un côté obscur qui est là et que tout le monde essaie un petit peu de cacher. Et c'est certainement là-dedans que se cache le mobile. Parce que le mobile, on n'arrivera jamais à l'établir de façon précise. Donc je parle de tout ça. Je parle de mes doutes sur ce qu'on nous a dit. Et puis après, bien évidemment, eh bien là, j'attaque sur les éléments matériels. J'énumère déjà les traces d'ADN sous les ongles. Et puis il y a quelque chose aussi dont je parle. On est en février. Souvenez-vous, février, le 7 février. Il fait froid, on est dans le nord. Comment expliquer, que si elle n'est pas rentrée dans la maison, on trouve une trace de cette nature sur son avant-bras? Elle a un manteau en février.
Oui, quand Monique Lejeune trébuche, enfin c'est ce que dit Béatrice Matisse, quand Monique Lejeune trébuche et s'agrippe au bras de Béatrice Matisse, normalement elle s'agrippe plutôt à la manche de son manteau et pas à son bras.
Bien sûr. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que sur les lieux du crime, on va retrouver un bouton noir qui provient d'un manteau. Et d'ailleurs, lorsqu'on recherchera, lors de la perquisition, les vêtements qu'elle portait ce soir-là, elle dit « je les ai brûlés ». Alors attendez, ça j'en parle au juré, je dis « attendez, mais excusez-moi, vous brûlez vos affaires, vous ?» C'est des petits détails, mais ça compte énormément. Et la vérité, c'est qu'elle est entrée, bien évidemment, et puis qu'elle a posé son manteau, et puis qu'ils ont commencé à discuter, et puis là, il s'est passé quelque chose, il y a eu effectivement une violente dispute, et puis qui aboutit à ça. Alors elle nous dit, elle, qu'elle est partie rechercher le couteau dans la voiture. Bon, je veux bien, mais j'en sais rien. Elle l'a peut-être sur elle, je sais pas. Est-ce pourquoi elle est venue ce soir-là?
Qu'est-ce que vous avez demandé dans votre réquisitoire en tant que peine?
J'ai dû demander 20 ans, je pense. Il a été condamné à 15 années de réclusion criminelle. Elle est restée de marbre au moment de la condamnation. Et puis, il y a eu, si je me souviens bien, il y a dû y avoir un pourvoi en cassation qui a été rejeté, mais j'en suis pas sûr. Oui, c'est une affaire qui reste, si vous voulez, parmi celles dont je me souviens, parce que les personnalités des uns et des autres, notamment la scène, les conditions dans lesquelles le procès s'est passé, la violence à l'audience, c'est des affaires dont on se souvient, des affaires qui marquent. Vous savez, on perd beaucoup de soi-même dans ces dossiers-là, parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel. On s'implique, on est touché par ce que l'on dit, par ce que l'on vit, par ce que l'on voit. Il faut pas penser que lorsqu'on a quitté la salle d'assises, c'est terminé. Moi, parfois dans la vie courante, vous avez des images qui vous reviennent, des images d'autopsie, des images de découverte de corps, d'une déposition en audience, d'un moment. Ça fait partie de notre vie maintenant, on vit avec, quoi.
Venez d'écouter un épisode des Voix du Crime avec le témoignage de l'avocat général Luc Frémiot. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur le site rtl.fr. Et c'est Amandine Bégaud qui vous accompagnera dans le prochain épisode des Voix du Crime. À très bientôt.